majesté le roi.
En 1768, le roi Louis XV règne depuis 53 ans. Et il s'inquiète.
Que dit-on de moi ?
Auprès de ses conseillers, le souverain veut savoir ce qu'on dit de lui.
On dit du roi qu'il est endormi dans la volupté, que le nombre de ses maîtresses lui dissimule la vue de ses peuples, que vos courtisans sont corrompus et que vos ministres sont méchants et imbéciles.
En 1768, donc, son règne s'essouffle et la popularité du roi est au plus bas. Et c'est à ce moment-là qu'entre dans sa vie Jeanne du Barry.
J'étais, pour me servir de l'expression de Lebel, un nouveau soleil levé sur Versailles.
Lorsque Jeanne du Barry s'approche de Versailles, le lit du roi est vide. La maîtresse favorite de Louis XV, Madame de Pompadour, est morte en 1764. Et en juin 1768, la reine, Marie Leszczynska, meurt à son tour.
Mort mon fils, morte ma bru. La reine est morte, tous morts. Et je m'ennuie à mourir.
Ainsi, tous les clans de la noblesse qui manigancent à la cour de Versailles cherchent alors à placer une maîtresse dans la couche royale.
Le roi n'aura d'autre maîtresse que de notre main.
C'est un enjeu politique crucial, avoir l'oreille du roi.
Nous lui choisirons une femme sans plus d'ambition que celle du lit.
Alors, comment Jeanne Bécu, cette jeune femme sans titre, est-elle parvenue à rafler la mise ?
Une fort jolie femme, capable de faire tourner une tête plus forte que celle du roi.
C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
Aujourd'hui, avec le recul du temps, on peut se demander si l'on doit rendre Madame du Barry responsable des faiblesses coupables d'un roi vieillissant qui ne sut résister à la folle passion qu'elle lui avait inspirée.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Jeanne du Barry, Faste et Solitude. Deuxième épisode, dans le lit du roi.
Le roi a une nouvelle maîtresse et personne ne la connaît.
Quoi, ce n'est pas l'une d'entre nous ? Si c'est vrai, c'est un scandale !
Nous ne permettrons pas que le roi se prostitue.
De qui s'agit-il ?
Madame la comtesse du
Songez donc, mon ami, à la brillante dessinée que vous pouvez faire. La place de Madame de Pompadour est vacante. C'est à vous de la prendre.
Mais d'où vient cette femme ?
Née parmi le peuple, célèbre par la dissolution de ses mœurs, la publicité et l'éclat de ses débauches.
Alors c'était ça, Jeanne de Vaubernier. C'était ça, la belle et pure jeune fille.
À mort, la qui t'arrive.
Après tout, le monde est une plaisante comédie. Et je ne vois pas pourquoi une jolie femme n'y jouerait pas le premier rôle.
Reprenons notre récit au 20 juin 1763 sur l'actuelle place de la Concorde à Paris. Ce jour-là, on inaugure une statue équestre de Louis XV. Une statue en bronze, commencée par Bouchardon et achevée par Jean-Baptiste Pigalle. Le roi est vêtu à la romaine, coiffé d'un catogan et couronné de lauriers. Et puis, sur le piédestal, à chaque angle, quatre autres statues en bronze qui représentent les vertus du roi. La force, la justice, la prudence et la paix. Or, Louis XV, le bien-aimé, a perdu toute sa popularité. Et à peine la statue est dévoilée que se mettent à courir partout dans Paris toutes sortes de quolibets.
Oh, la belle statue! Oh, le beau piédestal! Les vertus sont à pied, le vice est à cheval.
C'est une fin de règne absolument épouvantable. Alors là, il n'est plus du tout Louis le bien-aimé.
Cécile Berly, historienne.
D'ailleurs, on aime dire dans les libelles, dans les pamphlets, qu'il n'est plus que Louis le détesté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune forme de respect, il n'y a plus aucune forme d'amour entre Louis XV et ses sujets. Et il me semble que c'est un mot important à ajouter maintenant. En 1768, Louis XV va perdre sa femme, la reine Marie Leszczynska. Il en a du chagrin, c'est une année difficile. C'est aussi un homme vieillissant, parce que quand on a bientôt 60 ans au XVIIIe siècle, on commence à être un vieillard. Et donc, c'est une fin de règne qui est aussi marquée. Alors, j'ai parlé du décès de sa femme, mais il a aussi perdu son fils. Il vient de perdre sa belle-fille. Donc, c'est un temps de sa vie qui est, on ne peut plus, difficile, négatif. Et surtout, il y a cette séparation, cette rupture même, on peut dire, entre lui et ses sujets.
1768 est donc une année détestable pour Louis XV. Un roi esselé et veuf, fragilisé politiquement. Un souverain impopulaire et neurasthénique. De son côté, Jeanne Bécu a 23 ans et elle vit à Paris sous la protection de Jean du Barry. Et c'est lui, le roué, soutenu par ses influents réseaux à la cour, qui aspire à tirer profit de ce roi qui s'ennuie. Ayez conscience qu'en 1768, le lit du roi est vacant. La reine est morte et aucune maîtresse officielle n'a été présentée à la cour.
Il doit être fatigué à cette heure de la monotonie de ses amours. On ne lui sert que des vierges ou des femmes qui font semblant de l'être.
De fait, les grandes familles de la noblesse de France cherchent à promouvoir auprès du roi une femme de leur propre clan. Ainsi, allié au maréchal duc de Richelieu, un intime de Louis XV, Jean du Barry envisage de placer Jeanne sur le chemin du roi. Et il la prépare à cette éventualité.
Faites attention que c'est de votre première entrevue avec le roi que dépend notre destinée. Qu'il connaisse enfin, grâce à vous, des distractions qu'on demande en vain pour lui depuis longtemps. Il est comme ce monarque de l'Antiquité qui eut payé de la moitié de sa couronne le secret d'un plaisir inconnu.
Alors, cette première rencontre entre Jeanne du Barry et le roi Louis XV a longtemps été racontée de la même manière.
On fait évidemment entrer Jeanne à Versailles par les couloirs les plus infâmes.
Emmanuel de Varesquiel, historien et biographe de Jeanne du Barry.
On invente un dîner qui aurait été organisé par un des premiers valets de chambre de Louis XV, qui est Lebel, qui passe pour avoir été le pourvoyeur, entre guillemets, de chair fraîche. Et on pense que Lebel a été à l'origine de cette rencontre de Jeanne du Barry et de Louis XV. Et comment est-ce que les choses se sont passées? On imagine un dîner qui aurait été donné par Lebel dans son appartement du rez-de-chaussée à Versailles et auquel aurait anonymement assisté Louis XV, quasiment derrière une glace sans teint. Enfin, on est encore là dans un roman libertin. Il ne faut jamais sous-estimer l'influence de la littérature érotique sur la réinvention de la vie de Jeanne du Barry. C'est absolument passionnant. Et le voyeurisme est un élément essentiel du plaisir érotique au XVIIIe siècle. Et donc, on fait entrer anonymement Louis XV et assister Louis XV à ce dîner, mais anonymement.
En effet, la littérature érotique du XVIIIe siècle a sans doute nourri les fantasmes sur cette première rencontre. Mais après son enquête, Varesquiel propose une autre hypothèse.
Je pense que le fil conducteur qui conduit Jeanne à Versailles, c'est pas Lebel, c'est l'autre valet de chambre, premier valet de chambre de Louis XV, qui est Jean-Benjamin de Laborde, qui était un très grand collectionneur, très grand érudit. Également, il avait des parts dans la ferme générale et qui a été l'inventeur des premiers voyages illustrés. Voyage en Suisse, voyage en Italie, voyage autour de la France, qui sont des éditions extrêmement luxueuses, ornées de gravures et qui étaient vendues par souscription. On les retrouve tous, d'ailleurs, dans la bibliothèque de Jeanne du Barry. Et un certain nombre d'éléments, quelques découvertes, quelques lettres, m'ont permis d'acquérir la certitude que ce Jean-Benjamin de Laborde a été et est resté jusqu'à la fin de ses jours et à la fin des jours de Jeanne, c'est-à-dire sous la Terreur en 1793, le principal ami de Jeanne du Barry, un ami d'une très grande fidélité. Et je pense que c'est lui et peut-être d'autres financiers comme Radix de Sainte-Foy qui jouent un rôle important dans sa vie, qui introduisent probablement en plaçant Jeanne sur le chemin du cortège royal dans la Galerie des Glaces, en allant le dimanche, en allant vers la chapelle royale. Je pense que ça s'est tout simplement passé comme ça. Je pense que Jean Benjamin, qui avait un contact très intime et très direct avec Louis XV, a dû lui parler d'elle, et que les choses se sont faites petit à petit comme ça.
Le roi me salua avec une galanterie admirable et me parla avec non moins d'amabilité. Ses manières douces et polies, sa belle figure, son air noble, le feu libertin que lançaient ses yeux, tout me rassura.
Donc, grâce à ses entrées à la cour et à l'entourage domestique du roi, Jean du Barry parvient à placer Jeanne sur le trajet dominical du roi. Mais que dire du point de vue de Jeanne ? Avait-elle l'ambition affichée de séduire le souverain ?
Bien sûr, mais on compterait sur les doigts de 300 000 mains le nombre de femmes qui rêvaient d'être la maîtresse du roi. Bien sûr qu'elle avait cette ambition-là, probablement plus rêvée qu'envisagée sérieusement. Elle le dit elle-même d'ailleurs, je ne me doutais pas de la passion que le roi aurait pour moi. Et je pense que cette passion a été partagée.
Est-ce qu'on sait alors, Emmanuel de Varesquiel, à quoi ressemble la relation du roi Louis XV et de cette Jeanne Bécu, dans les premiers temps, est-ce qu'on a des sources, est-ce qu'on a des traces de ce que c'est que cette relation-là entre ces deux êtres ?
Je pense que cette relation relève de ce que j'appellerais une conspiration du secret, des deux côtés. Ce qui réunit les deux personnages, c'est vraiment, vraiment l'instinct et le goût quasiment consubstantiel du secret. Ils ont certainement connu, dans des contextes évidemment très très différents, des enfances assez proches, isolées et solitaires. C'est le cas du petit Louis XV. Et en confrontation d'ailleurs avec, pour Louis XV, avec les enfants illégitimes, mais reconnus de Louis XIV, qui ont été des obstacles sur le chemin du pouvoir pour lui. Hein. Et donc, ils ont une grande différence d'âge. Hein. Jeanne a 23 ans lorsqu'elle arrive à Versailles, et Louis XV en a 59.
Il veut donc me revoir ?
Demain, au soir, si vous le trouvez bon.
Oh. Je suis à ses ordres.
Au départ, donc, se noue entre Jeanne du Barry et Louis XV une relation charnelle discrète. Et dans un premier temps, le puissant duc de Choiseul est persuadé que Jeanne n'est qu'une passade. D'abord, qui est-il, ce duc de Choiseul ?
Choiseul, qui est en quelque sorte la créature de Madame de Pompadour et de Louis XV. Louis XV s'est toujours méfié de Choiseul, parce que c'est un véritable animal politique, il l'a très bien compris. C'est une intelligence absolument redoutable. Ce n'est pas forcément quelqu'un de très sympathique, c'est-à-dire qu'il louvoie continuellement. Mais c'est quelqu'un qui a une perception de tous les enjeux politiques, militaires, économiques. Il a une forme de génie politique, hein, Choiseul. Et il se trouve qu'il a un nombre d'ennemis qu'on ne peut compter. C'est-à-dire que tout le monde le déteste. Alors d'un côté, vous avez ceux que l'on appelle les dévots, qui détestent Choiseul parce que déjà c'est le ministre qui est en place. Et surtout, les dévots ne lui pardonnent absolument pas la politique qu'il a pu mener en faveur du rapprochement de la France et de l'Empire d'Autriche-Hongrie.
Comprenez que la France et l'Autriche, sur les conseils du duc de Choiseul, ont signé un traité en 1756 pour enterrer leur vieille rivalité et contrecarrer la montée en puissance de la Prusse et les ambitions de l'Angleterre. C'est ce qu'on appelle le renversement des alliances. Et ça va compter dans notre histoire de Jeanne du Barry. Mais à la cour de Versailles, une large majorité de nobles ne comprend pas pourquoi la France est devenue soudain l'alliée de cet ennemi qu'est l'Autriche. Le duc de Choiseul, premier des ministres, est donc détesté par les dévots. Mais pas seulement.
Et puis vous avez un autre clan, alors qui déteste autant Choiseul que les dévots, c'est-à-dire en premier lieu le duc de Richelieu et son neveu le duc d'Aiguillon, qui seront tous deux très proches, et pour cause, de la future comtesse du Barry. Donc les dévots et les baristes, qui sont des libertins patentés. Hein. C'est-à-dire que les dévots sont confis de religion et les baristes se perdent dans le libertinage. Hein. Mais là, il y a une sorte d'alliance politique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont en commun cette détestation viscérale de Choiseul. Donc Choiseul, en fait, se retrouve... Alors attention, parce que Choiseul, il n'est pas innocent dans tout ça, parce qu'il a aussi ses propres partisans. Donc on peut dire que, en fait, la cour est clivée en trois clans, qui se détestent, qui s'affrontent et qui vont s'affronter essentiellement par le biais de figures féminines.
Récapitulons, c'est important. À la cour de Versailles, quand Jeanne entre dans le lit du roi, en 1768, trois clans s'affrontent. D'abord, le clan Choiseul, qui gouverne la France avec un point de vue libéral et favorable à la bourgeoisie financière. Puis, le clan des dévots, associé au clan du duc de Richelieu, libertin et client du salon de jeu de Jean du Barry à Paris. Et ce n'est pas qu'un détail. Le duc de Richelieu est favorable à Jeanne Bécu, au point qu'il est sans doute complice de Jean du Barry, et pour cause.
Jeanne Bécu arrive à la chambre du roi en partie pour mettre une barrière à la toute-puissance politique de Choiseul. Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a les favorites royales, qui plus est, les favorites royales, mais le corps de ces femmes sert avant tout à des ambitions politiques et à des enjeux politiques. Pour le moment, il ne s'agit pas d'établir une fin de vie agréable à Louis XV. Pour le moment, il s'agit très clairement d'être dans l'arène politique et de se servir de cette femme pour enfin contrecarrer la toute-puissance de Choiseul.
Précisons que Choiseul voulait y mettre sa sœur. Hein.
Exactement. La duchesse de Gramont, tout aussi puissante que son frère, et qui considérait d'ailleurs... Ça, c'est assez drôle à lire et à comprendre, que parce que son frère Choiseul est tout puissant, elle aussi est toute puissante, et donc, légitimement, le lit du roi serait en fait le lieu où pourrait s'exprimer sa propre puissance.
J'ai subi cette nuit la plus cruelle humiliation de ma vie. Non seulement le roi m'a dédaigné, mais il m'a chassé de sa chambre en présence d'une petite salope dont il semblait fort débris.
Est-ce possible de faire ça à moi ? De qui s'agit-il ?
D'une certaine comtesse du Paris, sans doute une aventurière.
Pour moi, monsieur de Richelieu n'est pas étranger à ce misérable complot. Ce vil entremetteur brigue ma place.
Je règne sur la France, c'est vrai, mais pas sur Versailles. C'est l'étiquette qui régit la cour, pas moi.
À la cour de Versailles, même Louis XV est soumis à la rigueur de l'étiquette.
Conduisez-moi à Paris.
Je regrette, madame. Cette voiture est réservée à la suite royale.
Mais je suis la comtesse du Barry.
Mais madame, quelle est cette impertinence ? Vous n'avez aucun droit d'être ici. Vous n'avez jamais été présentée à la cour, que je sache.
Présentée ?
Oui, madame. Il faut avoir été présentée au roi pour pouvoir prendre place parmi nous. Et l'on ne présente à sa majesté que les personnes de qualité. Arrière-temps, madame, arrière-temps.
L'étiquette, c'est un ensemble de règles strictes et non écrites qui organise la vie de la famille royale et des courtisans à Versailles. Par exemple, si le souverain veut s'afficher avec une maîtresse officielle, il doit scrupuleusement respecter certains usages.
Une maîtresse royale, de façon assez paradoxale et très curieuse, doit être mariée. Les convenances veulent que la maîtresse royale soit mariée, ce qui nous paraît absolument hallucinant aujourd'hui, mais ça se passait comme ça. Et Jeanne, probablement, qui encore une fois, qui sait mentir, s'est certainement présentée au roi sous le nom de comtesse du Barry. Donc un nom qui ne lui correspond pas et un titre non plus. Et puis ensuite, lorsque la cristallisation, comme dirait Stendhal, s'est faite, il a fallu prendre des décisions. Et la première décision a été de marier Jeanne. Je pense que c'est une décision du roi. Et donc, comme elle s'appelle Du Barry, et que Jean Du Barry n'est pas disponible puisqu'il est déjà marié, même si sa femme est reléguée dans un couvent à Toulouse, et donc on choisit un frère cadet qui s'appelle Guillaume Du Barry, qui n'a pas fait grand-chose dans sa vie, qui traîne son oisiveté et son ennui entre Toulouse et Paris, que Jeanne ne connaît pas, ou peut-être l'a-t-elle rencontré par l'intermédiaire de Jean Du Barry, et qu'on va faire venir à Paris pour un mariage qui, véritablement, alors on parle de mariage blanc, qui est un mariage nocturne dans une église qui se trouve non loin de la gare de l'Est aujourd'hui, du nord de Paris, où on invente un roman pour faire pleurer dans les chaumières, si j'ose dire. C'est-à-dire, on invente à Jeanne du Barry un faux père qui se serait appelé Jean-Baptiste Gomard de Vaubernier. Le seul personnage qui soit authentique dans le contrat de mariage de Jeanne, c'est sa mère, Anne Bécu. Et on invente de faux titres au mari. On fait de Guillaume du Barry un conte qu'il n'est pas. Et puis, on prie très gentiment, c'est certainement un mariage qui n'a pas été consommé, on prie très gentiment Guillaume du Barry de rester discret et de s'éloigner. Mais Jeanne devient, par son mariage, par ce contrat de juillet et septembre 1768, une femme mariée, officiellement mariée, même si, et ceci explique cela, dans les élites bien informées, on est très vite assez peu dupe de ce subterfuge. C'est vraiment une réunion de conspirateurs, hein, cet extraordinaire mariage. Tout est faux, mais c'est vraiment à l'image de ce siècle, qui est vraiment le siècle des apparences et du théâtre. Le fait que les deux grandes passions de la seconde moitié du XVIIIe siècle soient le jeu et le théâtre en dit long sur le comportement social des uns et des autres. Et c'est en cela aussi qu'elle est absolument passionnante. Parce qu'elle est révélatrice de quelque chose. Elle est comme une espèce de miroir et de reflet d'une société tout entière.
Haute et noble demoiselle Jeanne Gomard de Vaubernier, consentez-vous à prendre pour époux le haut et puissant seigneur, messire Guillaume, comte du Barry, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, colonel à la suite de l'infanterie de France.
Oui.
Égaux quand j'avoue in matrimonio.
Désormais, Jeanne, c'est la comtesse du Barry. C'est déjà une ascension sociale. Déjà, à ce niveau-là, c'est déjà inouï. Hein. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de préparer la cour. Et aussi, il faut le dire, ce que l'on appelle désormais au XVIIIe l'opinion publique, à ce que cette femme ne soit pas éphémère dans le lit du roi, mais qu'elle occupe une place au plus près de lui physiquement à la cour de France. Parce que Louis XV ne s'en cache pas, cette femme, ce n'est pas qu'une passade physique. Il en est profondément amoureux, comme probablement il n'a jamais été amoureux.
Au fil des mois, le roi s'est attaché à sa jeune maîtresse. Et une fois Jeanne officiellement mariée, Louis XV veut passer à l'étape suivante.
Et demain, nous nous retrouverons fort tôt.
Fort tôt, sire, et en quel honneur ?
Celui d'une dame que nous aurons désormais le plaisir de compter parmi nous.
Comment cela, sire ? Votre Majesté veut-elle dire ?
Demain matin, à 10h précises, comme l'exige l'étiquette, il y aura une présentation. Je vous laisse, messieurs.
Alors, la présentation, ce qu'on appelle la présentation, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus spectaculaire pour les femmes, c'est le fait d'être présenté au roi et à la famille royale officiellement après qu'on a prouvé une noblesse remontant à l'an 1400.
L'historien Mathieu Davignat.
Alors, les preuves de noblesse qui doivent être présentées ne sont pas celles de la présentée, mais celles du mari. D'où l'importance d'être mariée. Parce que, évidemment, Madame du Barry, lorsqu'elle devient la maîtresse du roi à l'été 1768, on a fait croire au roi, ou il a fait mine de le croire, qu'elle était déjà mariée au comte du Barry, au frère hein, du roué des salons parisiens. Mais si on la marie, évidemment, c'est parce que pour être présentée, il faut être mariée. Il faut être une femme mariée, parce que ce sont les preuves du mari que l'on regarde. Alors, cela suppose, cette présentation, une fois qu'on a tout prouvé, un certain nombre d'avantages, comme celui de monter dans le carrosse du roi, de suivre le roi à la chasse, d'être présent à tel ou tel temps de cour. Et là où Louis XV est habile, c'est qu'évidemment, il veut quand même garder et sauver la face, face à sa cour et face à ses filles, qui sont évidemment très regardantes, mesdames, après la mort de Marie Leczinska en juin 1768. Et cette présentation va permettre à Louis XV d'avoir Madame du Barry dans ses carrosses, de la voir à tel événement à la cour. Donc, il y a un enjeu pour lui. Évidemment, tout le monde va être scandalisé de cette présentation, d'autant plus que pour être présenté, il faut avoir une marraine. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un qui assure de la bonne origine familiale. Et là où Louis XV va être aussi très intelligent, c'est qu'il va faire appel à son ami, le duc de Richelieu. Donc c'est lui qui va mettre en place cette présentation, qui va se charger de trouver une personne qui va bien vouloir présenter la Jeanne Bécu. Et on va trouver une obscure comtesse de Béarn qui était à Paris pour, je crois, des affaires familiales, où elle a perdu un procès, où elle a perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Et finalement, on va éponger ses dettes et elle va accepter de se porter garante de la présentation de Jeanne du Barry.
Vous n'avez pas été présenté.
Présenté à qui?
Au roi qui vous parle.
Comment? Nous avons couché dans le même lit et il faut que je sois présenté.
Ainsi, le 22 avril 1769, Jeanne Bécu, devenue comtesse du Barry par son mariage à la va-vite, est officiellement présentée à la cour de France sous les dorures du château de Versailles.
Aux yeux d'un individu normalement constitué du début du XXIe siècle, la présentation à la cour peut paraître quelque chose d'absolument fantomatique. Mais cette présentation de Jeanne du Barry, si on en lit les journaux à la main, les nouvelles à la main, les chroniques, a été un événement politique considérable, infiniment plus qu'une présentation d'ambassadeur ou qu'un traité de paix ou de guerre. Parce que la présentation de Jeanne, c'est-à-dire l'existence officielle de Jeanne du Barry à la cour, remet en question toute une organisation de cour, des ambitions familiales qui sont ces grandes familles de cour, les Duras, les Noailles, les Darcourt, les qui vous voudrez, qui sont littéralement percutées par cette arriviste ambitieuse, on la considère comme telle, qui littéralement va s'emparer d'une partie des faveurs royales, parce que tout le fonctionnement de la cour dépend de la plus ou moins grande proximité qu'on entretient avec le roi, et des faveurs royales et des grâces royales. Et Jeanne percute et télescope littéralement ces lentes et longues ascensions sociales de ces familles de cour, en sachant que les charges de cour et les fonctions politiques sont intimement liées dans les stratégies familiale. Les politiques matrimoniales, les mariages, les charges de cour, les fonctions officielles et politiques, c'est-à-dire conseiller d'État, contrôleur général, ministre, tout ça marche ensemble. Et donc, les carrières de cour et les carrières politiques, au fond, c'est une seule et même chose. Et il faut comprendre ça si l'on veut mesurer la violence de la réaction de la cour à l'égard de l'entrée de cette petite Jeanne Bécu à Versailles entre juillet 1768 et avril 1769.
Sous aucun prétexte, nous ne devons assister à cette présentation dimanche.
Jamais je ne souffrirai d'être supplantée par une raccrocheuse de laquais, moi dont la famille est alliée à plusieurs maisons souveraines.
La cour réagit logiquement très mal. Pour la cour, c'est un scandale inouï.
L'historienne Cécile Berly.
Tout le monde sait qui elle est évidemment à l'origine. Tout le monde s'exprime on ne peut plus clairement sur l'idée qu'en fait, beaucoup de gentilshommes de la cour, pour cause, la connaissent, puisqu'ils l'ont connue dans son salon à Paris et qu'ils ont eu des relations physiques avec elle très chèrement payées. Donc, personne n'est dupe. Tout le monde sait qui est Jeanne, tout le monde.
Sire, dois-je donner l'ordre d'annuler la présentation?
Pour quelle raison?
L'étiquette, sire. L'étiquette ne permet à personne de faire attendre votre majesté. La présentation devait avoir lieu à 10h, il est 10h10.
C'est curieux, sire, mais ma montre ne marque pas encore 10h. Mais c'est exact. Votre montre avance, Choiseul, ou vous avez un mauvais horloger.
Sire, je...
Voyez-vous-même. Il est 10h moins 5.
Le jour de cette présentation officielle, qui est un moment quand même épique, elle va volontairement se mettre en scène, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre en scène quelque chose dont elle n'a pas l'habitude, c'est-à-dire la toute-puissance. Et là, pareil, quand on parle de la présentation officielle, quel est le mot que l'on emploie? On emploie le mot « apparition ». D'une part, elle arrive très en retard, même Louis XV finit par s'impatienter. Beaucoup n'ont pas voulu assister, les femmes en particulier, n'ont pas voulu assister à la présentation officielle. Il n'y a pas forcément une foule innombrable, mais il y a quand même évidemment une grande partie des courtisans. Tout le monde attend, tout le monde s'impatiente en disant « mais en plus elle est mal polie ». C'est pas un manque de correction. C'est parce que très clairement, elle est en train de mettre en scène le fait qu'elle est en train de naître toute puissante.
Il est presque 10h15. Elle a perdu.
Richelieu, fait ouvrir les portes.
Madame la comtesse de Béarn. Madame la comtesse du Barry.
Et donc, elle apparaît très en retard, dans une robe absolument somptueuse, qu'elle a recouvert avec goût d'un nombre infini d'accessoires, de plumes, évidemment de diamants, qu'elle a mis partout autour de son cou, de ses poignets, des bagues. Enfin, c'est une apparition. Et elle apparaît majestueuse, parce que ça aussi, on le lit dans les sources, c'est-à-dire que, mine de rien, tout le monde a le souffle coupé, parce qu'elle est magnifique, elle est bouleversante de beauté, et aussi elle a un aplomb, parce qu'il faut bien comprendre que pour quelqu'un qui a un tel parcours de vie, être officiellement présenté à la cour de France, mais c'est probablement le jour le plus important de sa vie, en fait. Désormais, sa vie ne sera plus comme avant. Et il faut qu'elle affirme une toute-puissance dont elle va devoir faire quand même l'apprentissage d'un grand nombre de codes.
C'est la du Barry, la maîtresse du roi. On ne l'accepterait pas à la cour, mais le roi avait en sorte de l'obtenir à titre.
Une chose que j'ai apprise, c'est que ces filles sorties du ruisseau tiennent toujours à se faire respecter.
Est-ce ainsi que je mérite d'être traitée? On ne me respecte pas à la cour.
Je pense que...
Pardon.
Voilà quelle rote. C'est de pire en pire.
Depuis le 18e jusqu'à aujourd'hui, de Madame du Barry, on a l'image d'une femme pas très bien élevée, si j'ose dire mal dégrossie, voire vulgaire. Pas du tout. C'est une femme qui s'exprime très correctement, qui est très polie, qui est très respectueuse. Elle comprend pas forcément les usages de la cour qu'elle juge ridicules, mais comme tout le monde, les premiers à les juger ridicules, ce sont les courtisans. Et c'est une femme qui, les sources sont très claires, hein, c'est une femme qui très tôt va se distinguer par son humanité. Et ça va désarçonner la cour, parce que cette humanité, cette simplicité, c'est-à-dire le fait tout simplement de porter sur l'autre un regard bienveillant, mais c'est une chose exotique à la cour de France. Voilà, c'est qu'elle est, de ce point de vue-là, elle est totalement atypique. Et ça, c'est très perturbant pour les commères de Versailles, pour tous ces gens qui étaient continuellement dans la malveillance. C'est déroutant.
Le comte d'Espinchal dans ses mémoires militaires. Madame du Barry est bonne, généreuse, d'une société douce, excellente amie, très charitable et extrêmement obligeante. Elle est, chez elle et dans le public, de la plus grande décence, démentant à cet égard tous les mensonges grossiers que la calomnie s'était plu à répandre sur elle.
Résumons. Jeanne Bécu, devenue comtesse du Barry, a été présentée à la cour. Elle est donc désormais maîtresse favorite du roi. Et pourtant, elle demeure encore hors des usages.
Il n'y a rien qui officialise cette position à la cour, si ce n'est la volonté royale. Et donc, il va la loger à Versailles de son propre fait, ce qui... évidemment, va scandaliser la cour. Elle scandalise la cour non seulement parce que, on l'a dit, elle est soi-disant de l'allée du peuple. Ça scandalise évidemment la religion parce que le roi a une maîtresse, mais ça, c'est habituel. Et surtout parce qu'elle n'a pas de réseau et qu'elle va être mise là, comme cela, sans aucune fonction.
L'intronisation royale de Jeanne, cette femme sans titre de noblesse, ajoutée au fait qu'elle soit logée au-dessus des appartements du roi, aiguise les jalousies et excite les férocités.
Locke, ma fille, à quel jeu jouez-vous?
Il n'est pas possible.
Qu'est-ce qui n'est pas possible?
Que cette femme soit présentée. Personne ne peut croire à une action aussi indécente, à un éclat aussi infâme. Vos sujets vous mépriseront...
Mes sujets sont mes valets. Et il y a des potences, des roues, des haches, pour quiconque osera critiquer ma conduite.
Soit, mon père, mais je serai quant à moi Enlevez à jamais à cette fille l'envie de m'adresser la parole.
Elle est détestée par tous les clans, à commencer par celui des dévots, mené par les propres filles de Louis XV.
Alors les filles ne sont plus que trois, c'est Mesdames Victoire, Adélaïde et Sophie. Elles sont recluses dans leur appartement, confites en religion, et donc naturellement hostiles à l'arrivée de cette nouvelle maîtresse royale.
Emmanuel de Varesquiel.
Et elles vont mener une guerre de tranchées, qui est évidemment une guerre de préséance et une guerre entre guillemets d'honneur contre Jeanne du Barry, au point d'ailleurs que Louis XV finira par renoncer à inviter ses propres filles à certains de ses petits voyages. Vous savez, le roi se déplace en permanence d'une cour à une autre, d'un château à un autre, et il y a les grands voyages de Compiègne, de Fontainebleau, de Marly, et puis il y a les petits voyages de Choisy ou de Saint-Hubert. Et pour des questions, je dirais, de pacification ou de paix au sein de la cour, qui était un univers, c'était un panier de crabes, hein, pour dire les choses, un univers extrêmement violent, extrêmement agité. Et donc, pour éviter de trop grands dissentiments entre sa maîtresse et ses filles, celles-ci seront interdites de certains petits voyages, comme seront interdits de petits soupers, ce sont les soupers des cabinets, certaines des dames pour accompagner la reine, et en particulier la sœur de Choiseul, la duchesse de Gramont, qui n'avait pas la langue dans sa poche et qui était extrêmement ambitieuse elle aussi.
La duchesse de Gramont, sœur du duc de Choiseul, avait espéré un temps s'introduire dans le lit du roi et devenir sa maîtresse.
Oui, sire, je serai la femme que vous désirerez.
Celle que je désirerai ne le fera pas exprès. Adieu, madame.
On imagine sa rage. Quant à Choiseul lui-même, disons que le duc a pour le moins manqué de discernement.
Le duc de Choiseul, dans ses mémoires, 1778. On croyait que le sort de cette fille serait celui des 20 autres plus honnêtes que l'on avait enfermés au parc aux cerfs. J'étais persuadée que le roi se blaserait et qu'il ne resterait de tout cela qu'une anecdote pitoyable pour le roi et un très mauvais exemple pour ses enfants et la jeunesse de la cour.
Eh bien, pour la première fois, il se conduit en ministre orgueilleux et non pas en stratège politique. Choiseul a dépendu d'une maîtresse royale et en effet, sa carrière a été en grande partie au départ, lorsqu'il est nommé ambassadeur à Rome, à Vienne, puis ministre des Affaires étrangères, a dépendu en grande partie de la faveur de Madame de Pompadour. Il est au pouvoir depuis plus de 10 ans. Il détient quasiment toutes les rênes du pouvoir. Avec son cousin, le duc de Pralins, ils détiennent à la fois le ministère de la guerre et le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Marine, c'est-à-dire les trois ministères clés, en dehors du contrôle général, c'est-à-dire le ministère des Finances. Et il est, Talleyrand le dit très bien dans ses mémoires lorsqu'il dresse le portrait du duc de Choiseul, qu'il n'aimait pas d'ailleurs, il dit que Choiseul, au moment où Jeanne arrive à Versailles, en 1768, est probablement le plus puissant de tous les premiers ministres ou de tous les principaux ministres qu'a jamais eu Louis XV depuis le début de son règne. Et je pense que, tout simplement, Choiseul ne veut pas partager son pouvoir. Et puis, il ne faut pas sous-estimer aussi le mépris de classe de Choiseul, ce grand seigneur lorrain, qui sous-estime certainement l'intelligence des êtres et des choses que possédait Jeanne du Barry, et qui va s'opposer en la considérant comme quantité négligeable et en ne croyant pas dans cet amour, au fond, extrêmement solide du roi pour sa nouvelle maîtresse, qui va s'opposer à elle jusqu'à en être disgracié.
Avant d'être disgracié, on raconte que le duc de Choiseul a tenté de faire chuter Jeanne du Barry en subventionnant une campagne de calomnie.
Épigramme populaire dans les rues de Paris, année 1770. France, tel est ton destin, d'être soumis à la femelle. Ton salut vient de la pucelle. Tu périras par la catin.
On raconte que Choiseul
aurait été le mécène de libelles, de pièces de théâtre contre la Dubarry. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est faux?
Je pense que les premiers pamphlets qui sortent contre Jeanne Dubarry, notamment à Londres, à travers un libelliste extrêmement facétieux qui était très proche du chevalier d'Eon d'ailleurs et de Beaumarchais, qui s'appelle Thévenot de Morande, et qui publie en 1771 un petit journal qui s'appelle Le Gazetier Cuirassé. Et c'est lui qui, le premier, invente cette légende du frère Ange, du faux père de Jeanne Dubarry, et il est certainement stipendié par, non pas par la cour, mais par les services du ministère des Affaires étrangères et de Choiseul. Oui, Choiseul est à l'origine, comme d'ailleurs les premiers pamphlets qui vont sortir contre Marie-Antoinette viendront de la cour elle-même. Donc c'est la même chose pour Jeanne Dubarry. La littérature pamphlétaire, la littérature noire qui commence à sortir contre elle, a des raisons éminemment politiques, et elle provient évidemment via des libellistes stipendiés et talentueux pour certains, elle provient de la cour.
Choiseul redoutait l'influence politique de la Dubarry. Avait-il raison de s'en méfier?
Alors, je reviens à la légende et à ce qu'on a dit d'elle à travers les pamphlets. Elle a été considérée comme une femme, au fond, qui n'a eu d'influence sur Louis XV que par ses talents sexuels. On l'a fait sortir du bordel. Il y a cette fameuse phrase avec Noailles, « Sire, je vois que votre majesté n'a jamais été au bordel ». Donc, on a considéré que l'emprise de Jeanne Dubarry sur le roi ne pouvait s'expliquer que par les artifices et la longue expérience qu'aurait été la sienne en matière de lit. Évidemment, les choses sont plus nuancées et plus intéressantes que ça, parce que si on s'en tient à là, on va nulle part et on aboutit à une impasse. L'exercice de la politique par Jeanne Dubarry a été infiniment moins spectaculaire que celui de Madame de Pompadour, qui avait l'orgueil de vouloir jouer un rôle, qui ouvertement nommait les ambassadeurs et les ministres. Jeanne a été infiniment plus discrète, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle n'ait pas eu la connaissance, jusque dans ses détails, et de la politique officielle du roi, et de sa diplomatie secrète. On sait par le comte de Broglie qu'elle était au courant de toute cette diplomatie menée contre l'Angleterre, et que par ailleurs, du point de vue politique, au moment où Jeanne arrive à Versailles, elle évolue dans une mouvance qui touche d'ailleurs une partie des élites françaises, qui est assez hostile à ce qu'on a appelé le renversement des alliances. C'est-à-dire ce fameux traité de 1756 qui fait que le roi de France abandonne son allié traditionnel qui est la Prusse, pour un nouvel allié qui a été de tout temps l'ennemi traditionnel du royaume, qui est l'allié autrichien, qui est l'Autriche. Et au fond, Jeanne Dubarry s'inscrit dans cette mouvance hostile à ce renversement des alliances. Et on comprend mieux les choses par rapport à cette guerre que se mèneront ou que mènera Marie-Antoinette, jeune dauphine, contre Jeanne Dubarry, quand on mesure le contexte politique d'ensemble.
Sire, je crois que l'heure n'a jamais été aussi favorable pour mettre fin à l'hostilité des Habsbourg et des Bourbons. C'est le vœu de l'Autriche et c'est le nôtre aussi. Une telle alliance sera plus solide et durable si elle est consacrée par un mariage entre nos deux maisons.
Marie-Antoinette, l'archiduchesse d'Autriche, arrive à Versailles en 1770 pour sceller la nouvelle alliance entre la France et l'Autriche, orchestrée par le duc de Choiseul.
Marie-Antoinette est la caution de la nouvelle alliance franco-autrichienne lorsqu'elle arrive à la cour et qu'on la marie avec le dauphin, le futur Louis XVI. Et Jeanne Dubarry est probablement dans des univers politiques assez contraires et plutôt fidèle à l'alliance traditionnelle de la France avec la Prusse. Elle a donc des idées assez arrêtées. Et puis, au-delà de tout ça, et je pense qu'elle a évité à son niveau et dans une forme de très grande discrétion, aux côtés du duc d'Aiguillon, elle a évité certainement à plusieurs reprises une reprise de la guerre avec l'Angleterre. Il y a un mot assez joli d'ailleurs d'Arthur Young, qui est cet agronome anglais qui voyage en France à la veille de la Révolution et qui la voit, qui va là lui rendre visite à Louveciennes et qui dit d'elle qu'au fond, Jeanne Dubarry a beau avoir coûté quelques millions au trésor royal, ces quelques millions pèsent infiniment moins que les dizaines ou centaines de millions qu'aurait coûté une guerre avec l'Angleterre. Guerre avec l'Angleterre que Louis XVI a fini par entreprendre aux côtés des insurgents américains à partir de 1778 et qui entraînera en grande partie le royaume au bord de la Révolution. Jeanne Dubarry est une femme de paix.
dans ce contexte géopolitique, Choiseul se réjouit de l'arrivée de Marie-Antoinette, future reine de France, car il compte sur elle pour asseoir son autorité.
On imagine très mal un dialogue entre Madame la Dauphine et la fille Vaubernier.
Jamais je ne parlerai à cette créature.
Mais Louis XV cherche avant tout à protéger sa maîtresse.
Lettre de Louis XV au duc de Choiseul. Madame du Barry est jolie, j'en suis content, et je lui recommande tous les jours de prendre garde aussi à ses entours et donneurs d'avis. Car vous croyez bien qu'elle n'en manque pas. Elle n'a nulle haine contre vous. Elle connaît votre esprit et ne vous veut point de mal. Le déchaînement contre elle a été affreux, à tort, pour la plus grande partie.
Il a l'obligation, parce que justement il est son ministre, d'être le premier de ses sujets, donc de prêter une forme d'allégeance aussi à Madame du Barry. Et Choiseul va aussi tirer une épingle du jeu par l'intermédiaire d'une autre femme. Dans les mois qui vont suivre, le fameux renversement des alliances se concrétise par le sang, c'est-à-dire que le dauphin Louis-Auguste, le futur Louis XVI, va épouser la dauphine Marie-Antoinette, qui est bien évidemment cette alliance, mais aussi ce mariage, c'est vraiment le travail personnel du duc de Choiseul. Il mise tout en fait sur cette jeune autrichienne, sur ce sang frais, et surtout sur l'avenir de la monarchie, en expliquant à qui veut bien l'entendre que c'est lui qui œuvre au rétablissement de la monarchie, à sa continuité et au fait que le futur règne ne sera pas décadent, lui qui était si libertin. Voilà, on est vraiment continuellement dans des jeux de dupes, quelles que soient les figures et les clans.
Monsieur de Choiseul est mon plus cruel ennemi, sire. Et tant qu'il sera votre ministre, ni moi ni ma famille ne serons à l'abri de ses intrigues.
Au final, les manigances de Choiseul contre la du Barry ont un dénouement inattendu.
De toute cette politique pamphlétaire qu'il a donc mis en place contre Madame du Barry, c'est pas du tout la comtesse, c'est pas du tout la favorite en fait qui va en payer l'addition, si j'ose dire. C'est Choiseul lui-même. C'est-à-dire qu'il va s'obstiner, en fait, malgré les rappels à l'ordre, malgré les lettres écrites par Louis XV de sa main, destinées à son ministre pour lui rappeler qu'il n'a pas d'autre choix que de respecter sa favorite.
Sa Majesté le Roi.
Comment, sire ? Sa Majesté me fait dans l'honneur de venir travailler chez moi.
Vous faites erreur, duc. Je suis venu moi-même vous signifier l'ordre de vous retirer dès aujourd'hui dans vos terres de Chanteloup. Messieurs, laissez-nous.
Puis-je demander à votre majesté la raison d'une disgrâce aussi soudaine ?
La sentence finit par tomber, et de façon assez spectaculaire, puisque le 24 décembre 1770, Choiseul est officiellement, par lettre de cachet, donc ça veut dire que c'est infiniment grave, par lettre de cachet signée évidemment par Louis XV, il est officiellement condamné à l'exil, c'est-à-dire qu'il doit quitter et la cour et Paris et aller vivre en Touraine dans son domaine de Chanteloup. C'est évidemment une très très grande humiliation pour Choiseul, pour sa famille, pour son réseau. Là où il faut nuancer, Madame du Barry n'était pas forcément extrêmement satisfaite de ce renvoi, parce qu'elle savait très bien qu'on allait lui attribuer. Et que c'était elle qui allait passer pour cette femme toute puissante, méchante, et qui réglait ses comptes de façon si, j'ose dire, médiatisée. Voilà. Ce n'est pas rien hein, qu'un tel homme politique ait été condamné à l'exil par le roi, qui l'avait quand même fait duc, ministre, etc. Donc ce n'est pas rien du tout. Il faut savoir que Madame du Barry, dès les mois qui vont suivre cet exil, va absolument tenir à adoucir les conditions de cet exil. Les Choiseul vivent de façon extrêmement dispendieuse. Et par exemple, elle va demander au roi de payer, d'acquitter un certain nombre de dettes des Choiseul.
Le duc de Choiseul est contraint à l'exil. A priori, une victoire pour Jeanne et le clan Barryste.
Et même si Jeanne n'a pas directement œuvré à l'exil et à la disgrâce de Choiseul, qui n'a pas été pour autant une victoire, c'est probablement la disgrâce la plus populaire qui ait jamais existé dans toutes les histoires de disgrâce ministérielle au XVIIIe siècle. Et Talleyrand le souligne encore une fois, c'est déjà le signe de la dégradation du prestige et du pouvoir royal. Le fait qu'on se soit rendu à Chanteloup, qui était la propriété de Choiseul sur les bords de la Loire, où Choiseul avait été relégué après sa disgrâce, qu'on se soit rendu en troupe et comme en pèlerinage pour recevoir l'hommage du ministre disgracié à la barbe du roi et contre les ordres du roi, est déjà un signe de cette fronde qui n'est pas la fronde du tiers-état et de la bourgeoisie, qui est la fronde de la noblesse. Les prémices de la Révolution française, c'est ça. Et Jeanne est au cœur de cette guerre-là, entre la monarchie d'un côté et l'aristocratie en partie parlementaire de l'autre.
Prenons le temps d'expliquer cette lutte politique avec les parlements. Sur la fin de son règne, Louis XV voit son autorité contestée par les juges qui siègent au Parlement et qui ont la charge d'enregistrer les lois. Or, quand des lois proposées par Louis XV s'attaquent à leurs privilèges, les juges bloquent ces lois et remettent en cause l'autorité royale.
Permettez-moi, sire. Cela durera tant que vous n'aurez pas fait taire les parlements, sire. Aujourd'hui, ils parlent de liberté, mais s'ils venaient à devenir les maîtres, ils exerceraient sur les esprits, les discours, les mœurs, l'inquisition la plus violente. Vos sujets, sire, sont contaminés. Ils parlent de démocratie, comme les Anglais. Et le républicanisme gagne chaque jour un peu plus les esprits.
C'est ainsi que le 20 janvier 1771, soutenu par son chancelier Maupoux, devenu proche de Jeanne du Barry, Louis XV réaffirme son pouvoir face aux juges parisiens. Et c'est ce qu'on appelle un coup de majesté.
C'est pourquoi nous sommes résolus de briser les parlements et de reprendre la maîtrise des affaires de l'État.
Silence !
Alors que son règne battait de l'aile, en 1771, Louis XV a repris la main sur les parlements et il a maté l'opposition politique. À 61 ans, il semble se revigorer auprès de Jeanne du Barry. Sur quel ressort fonctionne leur relation ?
Les attirances sexuelles ne durent que ce que dure le moment. Et donc, au-delà de cette attirance, je pense qu'il y a une véritable complicité et un accord de tempérament entre ces deux êtres, au point que Jeanne du Barry, beaucoup plus que Madame de Pompadour, a probablement été la maîtresse de confiance du roi que le roi n'a jamais eue. Et ça s'explique en grande partie par les risques politiques que le roi a pris. On ne comprend pas les risques que Louis XV a pris, notamment sur le plan politique, avec ce qu'on a appelé le coup de majesté, c'est-à-dire la réforme de son chancelier Maupoux et le renvoi des parlements, si on ne tient pas compte de la présence de Jeanne du Barry à ses côtés, qui a été comme une sorte de réassurance, qui l'a rassuré par rapport aux mesures extrêmement dangereuse et grave qu'il a prise, et par rapport à ses hésitations anciennes. Je tiens Louis XV avec Louis XVIII pour l'un des rois les plus intelligents de sa lignée.
En conclusion de ce deuxième épisode, retenez d'abord que l'entrée de Jeanne du Barry dans le lit du roi en 1768 fut au départ un enjeu politique crucial entre les clans de la cour de Versailles. Et puis, au fil des mois, les sentiments de Louis XV à l'égard de sa maîtresse se sont consolidés. Il s'est attaché à elle et il a tout fait pour la protéger et lui offrir un statut officiel jusqu'à écarter le puissant duc de Choiseul. Ainsi, au tournant des années 1770, l'horizon de Jeanne du Barry semble totalement dégagé. Elle est presque reine de France et pourtant, son ennemie la plus cruelle vient de faire son entrée à la cour.
Lettre de Marie-Antoinette à sa mère, Marie-Thérèse d'Autriche. 9 juillet 1770. Le roi a mille bontés pour moi et je l'aime tendrement. Mais c'est à faire pitié la faiblesse qu'il a pour Madame du Barry, qui est la plus sotte et impertinente créature qui soit imaginable.
Comment Marie-Antoinette d'Autriche et Jeanne du Barry vont se livrer une féroce bataille à la cour de Versailles, c'est l'horizon du prochain épisode.
Elle a joué tous les soirs avec nous à Marly. Elle s'est trouvée deux fois à côté de moi. Mais elle ne m'a point parlé et je n'ai point tâché justement de lier conversation avec elle.
Jeanne du Barry, Faste et Solitude. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Éric Lancien. Lecture, Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin et Romain Couturier. Mixage, Basile Bocquer, Benjamin Orgeret. Prochain épisode, Le mépris de l'Autrichienne. Jeanne du Barry, Faste et Solitude, est un podcast original de France Inter.